OK, si vous voulez, on va aller dans Genèse au chapitre 25. Genèse chapitre 25, les versets 1 à 11. Genèse chapitre 25, versets 1 à 11. Je voulais vous lever, on va lire la parole. On va prendre un petit passage ce matin, pas très long, juste 11 versets, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire par rapport à ces versets-là. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jukbak et Shuak. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lehumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Keturah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien, fils de vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Akai Roy. Alors, si vous voulez vous asseoir, regardez, j'ai donné comme titre au sermon de ce matin « Les derniers jours d'Abraham ». Alors, on a vu au cours des sermons précédents, des semaines précédentes, quand Abraham est apparu, tous les problèmes qu'il a traversés, toutes les épreuves que le Seigneur lui a fait vivre dans le but que sa foi soit testée, éprouvée. Et on sait qu'il y en a eu des très, très grands. Comme par exemple, quand le Seigneur lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, ça n'était pas une petite épreuve. Alors, c'est un homme on l'appelle le père des croyants. Alors, en étudiant la vie d'Abraham, bien entendu, on étudie aussi notre propre vie parce qu'il y a beaucoup de similarités entre ce que le Seigneur a fait vivre à Abraham et ce qu'il nous fait vivre aussi à nous. Alors, quand on regarde le chapitre 25, on ne voit pas beaucoup de détails sur la vie d'Abraham, mais le but du chapitre 25 est plutôt de nous faire voir comment le chapitre 25 s'inscrit dans le plan divin du salut et la continuité. Si quelqu'un lit les Écritures, ou si quelqu'un lit le livre des Psaumes, sans toujours faire référence au fait que Dieu est en train de développer son plan du salut et la venue future du Messie, il manque le bateau. Il faut toujours revenir à Genèse 3:15, où on a eu la chute, et où le Seigneur a promis le Messie, et le reste du livre de la Genèse, c'est souvent le développement de l'idée que le Messie va venir, et le Seigneur n'utilise aucune partie des Écritures de Genèse qui ne nous mène pas dans cette direction-là. Alors, quand on se rappelle que le livre de la Genèse, c'est un livre qui veut nous parler de l'arrivée future du Messie, et pas seulement la Genèse. Il faut toujours lire les Écritures en se rappelant que Jésus est le fil conducteur de l'ensemble des Écritures. Quand on se souvient de ça, peu importe le chapitre qu'on étudie, il y a toujours un rapport quelconque, ou des fois très important, des fois plus ou moins important, avec le Messie Jésus-Christ, tout le temps. Autrement dit, si on lit les Écritures puis on ne pense pas à Christ, on manque le bateau, parce que toutes les Écritures parlent de lui, tout le temps, partout. Alors ça, c'est important de se rappeler quand on lit un passage, comme le passage de ce matin, ça a un rapport avec le développement de ce qui va se passer. Parce que Dieu avait dit, il avait fait une promesse à Abraham qui enverrait, qui serait béni, qui deviendrait le père de nations, qui deviendrait le père des croyants, etc. et même le pays qui voulait lui donner. Alors, ce qu'on voit dans le livre, c'est que le développement, le Seigneur a fait des promesses et on voit comment l'Éternel va accomplir ce qu'il a promis. C'est important de le voir, parce qu'on ne le voit pas quelque part. On fait juste lire des petits bouts, puis on ne fait pas le lien avec ce qui a été dit avant. Des fois, on manque le bateau, comme on dit. Alors, si je vous demandais combien d'années Abraham a vécu après le mariage d'Isaac, vous me diriez combien? 35 ans. Facile à dire, je viens de l'étudier. Mais il reste que 35 ans. Autrement dit, les 35 dernières années de la vie d'Abraham, le Seigneur ne nous a pas dit grand-chose sur ce bout-là de sa vie. Pourquoi? Parce que ça a été un bout de sa vie qui a été tranquille. C'est comme si le Seigneur avait fait, c'est sûr qu'il n'avait pas tout fait le travail qu'il avait à faire sur lui, mais il n'avait fait un grand, grand bout. Autrement dit, quand Dieu prend une grande période de vie comme 35 ans, puis il ne dit pas grand-chose sur ce qui s'est passé durant ces 35 ans-là, c'est parce que c'est une période de vie bénie pour lui. Comme autrement dit, le temps de ses épreuves était terminé. Mais pas, il y avait encore la question que son fils deviendrait un maillon dans le développement de l'arrivée du Messie futur. Abraham, Isaac, Jacob, et ça continue dans tout le reste de la Bible, jusqu'à l'arrivée de Jésus quand on lit Matthieu ou les Évangiles. Alors, il a vécu, on a vu la semaine passée, que Isaac avait reçu Rebecca, il l'a mariée. Il s'est dit qu'il est rentré dans la tente, là, qu'il s'est marié, c'était le mariage pour ce temps-là. Et il est rentré, il a vécu 35 ans après le mariage d'Isaac. Donc, on sait par les Écritures, puis par les sermons qu'on a vus dans les semaines passées, qu'il avait connu énormément d'expériences. Il avait été à la guerre contre les saints rois. Si on ferait toute la révision de ce qu'on a vu avec Abraham, on a vu que c'était un homme qui a été éprouvé et qui a connu beaucoup d'expériences. Des expériences et des épreuves qui avaient fortifié sa foi. Alors, quand on se demande pourquoi le Seigneur nous fait vivre des expériences, quand on se demande pourquoi le Seigneur nous fait vivre des épreuves, c'est pour fortifier notre foi. La même chose qu'à Abraham. Alors, ces 35 dernières années ont été des années qu'on pourrait dire silencieuses au point de vue des grands événements dans sa vie et qui ont été aussi sans bouleversement. C'est le fun de traverser des années sans bouleversement. Quand on en traverse, là, on dit qu'on traverse beaucoup d'épreuves, puis à un moment donné, le Seigneur nous donne un break, je ne sais pas moi, pour 3, 4, 5 ans, 10 ans. Et c'est le fun, hein? On le sait que c'est le fun. Alors, le Seigneur, il voulait plusieurs choses, nous apprendre plusieurs choses par le chapitre 25 de Genèse. Il a voulu qu'on sache, premièrement, que Abraham s'était remarié et qu'il avait eu 6 autres enfants avec Keturah. Et qu'on vient les nommer, ils ont nommé tantôt. Deuxièmement, que Abraham était conscient que son fils spirituel était le maillon par lequel viendrait le Messie. Il était conscient de ça. Alors, pour lui, c'est pas pour rien qu'il lui a donné tous ses biens et que ses autres enfants, il lui a donné des choses, mais il les a envoyés à l'Orient. La séparation de la lignée messianique, de la lignée non messianique. On le voit dans le texte. Alors, il était conscient que la lignée messianique, il lui a donné tous ses biens, à quelque part, c'est très significatif. Et que la promesse de Dieu aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Quand on va regarder, quand on regarde ces passages-là où le Seigneur fait cette promesse-là à Abraham, que sa descendance va être aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles du ciel, avec les connaissances modernes qu'on a sur le nombre d'étoiles, et je pense qu'on n'a pas besoin d'un grand mathématicien pour savoir que si on commençait à compter les grains de sable qui sont sur le bord de la mer, on en compterait un méchant shot. Alors, il est en train de dire que sa descendance serait aussi nombreuse. Quand on regarde le nombre de millions de chrétiens qu'il y a eu au cours de l'histoire, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. Alors, on va voir aussi que Dieu avait fait des promesses à Agar. Je me souviens d'Agar, c'est l'Égyptienne qui avait voulu aider le Seigneur en disant, ben, voici avec ma servante, puis le fils va servir. Et elle croyait que ce serait le moyen par lequel Dieu servirait pour amener. Mais Dieu a dit, non, ça ne sera pas un fils, ça va être ton fils naturel. Il faut se souvenir du fait qu'il y avait 100 ans, elle avait. Alors, il fallait vraiment que ça soit un miracle, mais pas à peu près. Alors, les promesses que Dieu avait faites à Agar et à Keturah, on va voir que dans les prochaines semaines, comment Dieu il a donné une descendance nombreuse de sa descendance spirituelle, ça c'est les croyants, mais il y a eu quand même une descendance nombreuse sur la lignée non messianique. Autrement dit, qu'est-ce que ces gens-là ont... Ça a été la nation arabe. La nation arabe a toujours entouré à peu près Israël, et c'est une nation aussi très nombreuse. Donc, il ne faut pas oublier que le Seigneur avait dit à Agar que sa descendance, à elle aussi, sera nombreuse. Quand on lit le texte, il faut toujours regarder comment ce qu'on lit est en train de réaliser et d'accomplir ce que le Seigneur avait promis. Et ça veut nous montrer aussi que Abraham était décédé après une vie très riche d'expérience, très riche de foi, et satisfaisant des innombrables bénédictions divines, et son âme entrant dans la félicité éternelle. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est mort, rassasié de jour. Et l'expression veut plus que juste dire « j'ai assez vécu ». L'expression veut aussi traduire l'idée qu'il avait été très profondément béni, il en était conscient, et il avait eu aussi assez de jours. Et là, il était prêt à rentrer avec ses pères. Quand tu rentres avec ses pères, c'était pas juste d'être enterré, là. C'était qu'il rentrait dans sa destinée éternelle, le côté de « après la mort ». Alors, c'est ça qu'il veut nous montrer dans le chapitre 25. On va regarder que dans le verset 1 à 4, c'est une fin de vie, parce qu'on l'a donné comme titre « Les derniers jours d'Abraham ». Donc, les derniers jours, on pourrait plutôt parler des dernières années. Une fin de vie providentiellement confortée. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Providentiel, ça veut dire les circonstances que Dieu envoie dans la vie d'Abraham, où ces circonstances-là vont être bénissantes et réconfortantes. Confortantes. Verset 1 à 4. Quand quelqu'un perd sa femme, lui a perdu sa femme et il était sûrement attristé. C'est dur de se retrouver seul quand tu perds ta femme. Il y a juste ceux qui l'ont connu qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais ça peut arriver dans la vie de n'importe quel croyant. Le Seigneur vient nous dire comment il s'est pris, quelles circonstances il a envoyées dans la vie d'Abraham pour qu'il soit réconforté malgré les difficultés qu'il vivait. On lit dans les versets 1 à 4, chapitre 25. « Or Abraham prit une autre femme. Donc, le Seigneur a permis que Abraham... À 140 ans, faut s'arrêter, y passer un petit peu, à 140 ans, a donné une autre femme à Abraham. De cette femme-là, il y a eu 6 autres enfants. Imaginez-vous, à 140 ans. Quelque part, si c'est pas miraculeux, ça, je me demande que ça prend pour être un miracle. Et après ça, qu'il lui enfanta, et là, on nomme les 6 enfants. Il y a des noms aussi qui sont mentionnés là-dedans qui sont importants, comme dans le verset 4, les fils de Madian. Quand on va lire les Écritures dans le développement des prochains chapitres, on va voir que les Madianites sont devenus des ennemis d'Israël à plusieurs endroits dans les Écritures. Alors, on voit que le Seigneur déjà nous montre que les enfants de celle qui n'était pas élue, qui est Turan, c'était pas... sont devenus les Arabes. Alors, et qu'on va voir que dans le développement de l'histoire, ça a été, pour Israël, ça a été difficile. Les Madianites ont toujours été des choses... Ils ont fait vivre à Israël des choses pénibles. Alors, la vie d'Abraham est très riche en expérience, en bénédiction, en épreuve, et elle tire à sa fin. Il a vécu 38 ans après la mort de Sarah et 35 ans après le mariage de son fils. Alors, il était rendu dans les 140. Alors, les dernières années de sa vie sont tranquilles et la Bible, comme on l'a mentionné tantôt, ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé dans sa vie, à part de ce fait-là. Là. Le reste, il n'y a pas eu d'événement trop important. Le verset 6 nous présente les deux concubines d'Abraham. Autrement dit, Abraham, il en a eu trois. Il a eu sa femme, il a eu Agar, puis il a eu Keturah. Donc, un autre passage de l'Ancien Testament nous parle de Keturah comme étant la concubine d'Abraham. Quand on lit dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 32, ça dit « Fils de Keturah, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jukshak et Shua, fils de Jokshan, Sheba et Dedan. » Donc, dans 1 Chronique 32, on nous présente cette femme-là, Keturah, comme étant la concubine. Alors, à l'époque des patriarches, prendre une femme pour concubine ou épouse, c'était une épouse à ce moment-là, quand tu prenais une concubine pour demeurer avec, ça devenait une épouse de second rang. Et c'était, à l'époque, une pratique très répandue. Et il faut rappeler que les enfants des concubines, dans cette époque-là, n'avaient pas droit à l'héritage. Pas pour rien que le verset va nous dire que tous les biens d'Isaac ont été tous les biens d'Abraham ont été à son fils, et les autres, il n'a pas dit « je ne donne rien à mes autres enfants ». Il les a donné les choses, puis il les a envoyés vers l'Orient. Alors, il y a vraiment l'idée de vouloir séparer la lignée messianique avec la lignée non messianique. Alors, la Providence va conforter Abraham par une deuxième épouse. Il y a plusieurs qui ont connu ça. Deuxième mariage, des fois troisième mariage. Quand les personnes décèdent, des fois, le Seigneur permet que les personnes se remarient. Alors, après la mort de son épouse Sarah et le mariage de son fils Isaac avec Rebecca, Abraham eut une autre femme qui s'appelait Keturah. C'est drôle parce que des fois, dans les noms, quand on se donne la peine d'aller fouiller dans les dictionnaires bibliques, les noms sont très significatifs. Et ça, c'est quelque chose, quand on prend l'habitude d'aller fouiller la signification des noms qui sont des Écritures, on est toujours profondément béni. Ça veut dire « encens », son nom. Alors, c'est sans doute une consolation et une miséricorde de Dieu pour les vieux jours d'Abraham. Alors, dans Genèse 12, verset 2, ça dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Là, on est en train de parler de la descendance, qui n'est pas nécessairement la descendance des croyants, mais Dieu avait dit que non seulement tu vas être béni en termes qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être des croyants, qui vont être des fils d'Abraham, qu'on pourrait dire, spirituellement, et aussi dans l'ensemble des autres. Des autres nations qui étaient pour être des fils d'Abraham aussi. Dans Genèse 15, au verset 2 à 5, on lit « Et Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » C'est ce qu'il croyait. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Autrement dit, tu es en train de dire, c'est pas le petit tour qu'elle a essayé de jouer en essayant de se prendre pour Dieu puis de régler le problème pour Dieu, qui va être c'est vraiment le fils naturel. Alors, on a vu que Dieu avait permis qu'il puisse avoir son fils Isaac. Là, le Seigneur, verset 5, il dit, « Puis le Seigneur le mena dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Ça veut dire que c'est beaucoup de monde. Genèse 17. Alors, on est en train de faire regarder des versets, versets 5 et 6. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Non seulement il était le père, si tu veux, de la nation d'Israël, mais il l'établit père d'une multitude de nations. Donc ça vient par les fils de Keturah et ça vient aussi par Ismaël. Alors tous ces gens-là vont faire en sorte qu'il va y avoir une multitude de nations, comme, et ça va être un accomplissement de ce que le Seigneur leur avait dit. Et verset 6, Genèse 17, « Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Genèse 22, alors on a parlé du compte les étoiles dans Genèse 15, Genèse 22, versets 17 et 18, « Je te bénirai de toute bénédiction et je multiplierai abondamment ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité parce que tu as écouté ma voix. » On sait que le chapitre 22, c'est le chapitre où Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Alors après, le Seigneur lui a fait cette promesse-là. Non seulement le sable de la mer, mais comme les étoiles du ciel, il dit, tu vas avoir, à cause que tu m'as écouté, tu vas tout avoir ces bénédictions-là. Alors, bien entendu, la Providence va le conforter par une deuxième épouse, mais la Providence va aussi le conforter par une grande vitalité. On n'a pas besoin d'être bien, bien intelligent pour se dire, un gars de 140 ans, premièrement, juste se remarier, j'ai connu moi un pasteur qui s'est marié, à 75 ans, puis quand j'ai su ça, c'est un ancien pasteur que j'ai eu dans le passé, quand j'ai su, 75 ans, il se marie. J'ai dit à ma femme, « Hein, t'es sérieux? Il se remarie à 75 ans? » Ben oui, il se remarie à 75 ans. Mais si on le compare avec Abraham, il s'est remarié à 140 ans. Et puis, non seulement il s'est remarié, mais il a eu des enfants. Il était-tu vigoureux, cet homme-là, ou s'il n'était pas vigoureux? Il était très vigoureux. Et d'où venait cette vigueur-là? Dieu. C'est Dieu qui permettait cela pour accomplir les promesses qu'il lui avait faites concernant les nations futures. Il fallait qu'il y ait des enfants qui viennent au monde puis que tout ce monde-là se multiplie. Alors le Seigneur avait donné à Abraham la capacité d'engendrer à 100 ans pour avoir son fils Isaac. Aussi, le Seigneur lui a accordé la grâce miraculeuse d'une très grande vitalité, puisqu'il put avoir encore 6 enfants de Keturah. Abraham devait avoir aux alentours de 140 ans, par déduction de sa mort à 175, et du fait qu'il a vécu 38 ans après la mort de Sarah et 35 ans après le mariage d'Isaac. Ils eurent 6 fils, dont les noms sont tous liés à des tribus du désert d'Arabie et de Syrie. Le nom le plus important pour l'histoire israélite est celui de Madian, le quatrième fils. Les Madianites habitèrent les régions désertiques autour d'Israël. Quand on regarde comment Israël, le pays d'Israël aujourd'hui, sont entourés par qui? Les Arabes. Alors, l'histoire de Joseph les mentionne dans Joseph 37, versets 28 et 36, où il dit qu'il a été vendu à des Madianites. Alors, on voit que toute l'histoire biblique passe par ces noms-là. Moïse a épousé une Madianite dans Exode 3, verset 1 et chapitre 18, versets 1 et 2. Les Madianites, dans le développement de l'histoire d'Israël, sont devenus une menace pour Israël sous les juges. Si vous allez, par exemple, dans Juges, chapitre 6, versets 3 et 4, ça dit, « Et quand Israël avait semé, il arrivait que Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, Et ils montaient contre lui. Et ils faisaient un camp contre lui. Et ils détruisaient les récoltes de la terre jusqu'à Gaza. Et ils ne laissèrent point de vivre en Israël, ni menu bétail, ni gros bétail, ni âne. Alors les descendants des fils de Keturah, dans les Écritures, on les a appelés les fils de l'Orient. Alors, la direction de l'Est dans les Écritures va souvent symboliser l'éloignement des bénédictions divines. Alors, ces fils sont éloignés du pays de la promesse. Rappelons que Caïn était établi à Nod, le pays de l'errance, et qu'il s'était dirigé à l'Orient d'Éden, loin de tout ce qui pouvait lui rappeler Dieu. Or, souvent dans les Écritures, la direction de l'Est, c'est une direction opposée à Dieu. Alors, Canaan est pour Isaac et ses descendants. Dieu a un plan à exécuter par eux. La deuxième chose qu'on veut regarder, c'est le deuxième point, une fin de vie prophétiquement confirmée. Autrement dit, le Seigneur, quand il permet qu'on connaisse un peu les derniers qui s'est remarié, qui a eu 6 enfants, qui sont devenus des nations autour d'Israël, les Arabes, mais il a voulu aussi qu'on sache que Abraham était conscient que c'était son fils qui deviendrait un maillon de la lignée messianique. Quand on lit, par exemple, dans versets 5 et 6, « Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. » C'est très, 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 très significatif. Il était conscient que c'était le fils de la promesse et que c'était par lui qu'arriverait le Messie éventuellement. Mais le verset 6, ça dit, « Mais il fit des présents aux fils de ses concubines. » Au pluriel. C'était qui?
Keturah,
puis Agar. Donc, aux fils de ses concubines. Et les envoya durant sa vie, autrement dit, durant sa vie, qui durant les dernières années, il les a probablement élevés, peut-être qu'ils soient rendus un certain comme adultes. Et là, il les a encouragés à s'en aller vers l'Est. Donc, dans une idée de séparer la lignée messianique avec la non-messianique. Durant sa vie, loin de son fils Isaac. Ça aussi, c'est très significatif. Pourquoi il voulait que les enfants qu'il avait eus avec ses concubines soient loin de son fils, c'est parce qu'il savait qu'éventuellement ces gens-là se retourneraient contre Israël et vers le Levant au pays d'Orient. Il est courant qu'un homme partage ses biens entre ses fils avant sa mort. Abraham avait déjà planifié de donner tous ses biens à son fils Isaac. Ce plan avait été annoncé par le serviteur d'Abraham lors du voyage pour trouver Rebecca comme épouse d'Isaac. Genèse 24, verset 36. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté un fils à mon Seigneur, par là d'Isaac, après être devenue vieille, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et là, il lui parlait, il n'avait pas vu encore l'accomplissement de ça, mais là, on est en train de le voir. Non seulement ça avait été dit que ça arriverait, mais là, c'est en train d'arriver. Il a donné tous ses biens à son fils Isaac, sachant qu'il était de la lignée messianique, et ses autres fils, il les a envoyés à l'Orient. Alors, c'est vraiment la confirmation de la prophétie qu'Isaac serait de la lignée messianique. Abraham, Isaac, Jacob. Et quand on prend Matthieu, au début, là, on a toute la lignée. Puis dans Luc, on a toute la lignée qui se rend jusqu'à Adam. Le Seigneur veut qu'on voit le fil à partir de la Genèse à aller jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Alors Abraham réinvestit ses richesses dans la lignée élue, donnant tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il continue de croire aux promesses divines. Isaac est le seul héritier spirituel, parce qu'il est conscient que c'est par ce fils-là que le Messie va arriver. Et aussi, dans les versets 5 à 6, on voit la confirmation de la prophétie que les fils des concubines seront aussi bénis en termes de nombre. Pas en termes de bénédiction spirituelle, mais en termes de nombre de personnes qui était pour sortir de ces deux. Alors, les fils des concubines n'avaient pas le droit, comme je vous ai dit tantôt, quand une concubine, c'était différent d'une femme légale. Ils pouvaient faire ça à cette époque-là, mais ils n'avaient pas droit à l'héritage, à l'héritage paternel. Cependant, on voit ici que s'il avait voulu, Abraham n'aurait rien donné à ses fils. Il a voulu quand même donner quelque chose à ses fils parce qu'il voulait faire preuve envers eux de générosité en leur faisant des présents, mais par grâce. Est-ce que tout cela n'annonce pas qu'éventuellement le salut va sortir des Juifs et qu'il va s'étendre aux autres nations? On voit ça déjà dans le texte. Alors la sagesse d'Abraham se voit dans le fait qu'il savait que la terre de Canaan, la terre promise, ne devait être réservée qu'à l'usage exclusif des descendants d'Isaac. Il prit donc les mesures nécessaires pour envoyer les fils de Keturah plus loin, vers le Levant, pays d'Orient. Abraham va ainsi empêcher la confusion et le mariage, le mélange qu'on pourrait dire racial, et éviter également les querelles et préserver la paix. On sait que ça n'a pas été long qu'Ismaël, la guerre a pogné avec... Alors, quand la lignée messianique est en rapport avec les non-messianiques, c'est sûr que la chicane va arriver à cause de ça. Et là, lui, c'est comme s'il voulait faire des mesures préventives. Alors, on sait que le salut a été majoritairement réservé à la nation juive dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des exceptions, là, mais c'était majoritairement la nation juive. Jusqu'à la venue du Messie Jésus-Christ, où là, il s'est présenté à eux comme leur roi, ils l'ont rejeté, et là, le salut, que ça dit dans Romains, a été... C'est comme si on était une branche, il nous a hantés sur l'arbre, l'olivier, et ils nous ont hantés, donc on n'est pas une branche naturelle. On était hantés, donc mis après, un peu comme quand tu colles une branche après un autre arbre, tu la soudes après, elle finit par prendre. Mais nous, c'est ça, on n'est pas de choses naturelles. Alors, dans Matthieu 21, versets 42-43, on a un peu une explication de tout ça. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. » C'est à qui la pierre? C'est à lui. Ceux qui bâtissaient, c'est à qui? Les Juifs. « Ont rejeté, est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, par là aux Juifs, et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » C'est qui ça? Les chrétiens, des nations qui sont venues après. Nous, il dit, je vais les donner à eux, eux vont donner des fruits. Autrement dit, les Juifs, à la venue du Seigneur, n'ont pas reconnu qu'il était le Messie. Romains 11, 25, qui va nous donner aussi une explication par rapport à ça. Car il dit, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. » C'est qui ça, les gentils? Les personnes qui sont fins, là? Ben non, c'est les nations. Jusqu'à ce que toutes les nations soient rentrées. Alors, une partie d'Israël, c'est que... C'est pas tout Israël. Il y a eu des convertis chez les Juifs après le départ du Seigneur. Il y en a eu, il y en a encore. Mais c'est pas la majorité. C'est pas le peuple d'Israël dans sa globalité. Alors, on voit, versets 7 à 11, que sa vie est comblée par le nombre de jours et tout le temps qu'Abraham vécut fut de 175 ans. Alors, rappelons une chose, qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il est arrivé en Canaan. Il est rendu à 175, donc ça veut dire qu'il a vécu 100 ans. Alors, il a donc vécu 100 ans dans le pays de la promesse et l'indication de son âge montre implicitement qu'il mena une vie pleine et entière. Verset 8, « Comblé de bénédictions et l'entrée de son âme en vie éternelle. » C'est que le chapitre nous raconte. Puis Abraham expira et mourut dans une belle vieillesse. Ça y tente pas de vivre ça. Mourir dans une bien vieillesse, âgé et rassasié. Quand on a bien mangé, là, disons que tu as bien faim, tu prends un bon repas, tu es rassasié, même si on voudrait t'en donner une autre bouchée, tu n'en veux plus, tu es plein, comme on dit. Lui, il était plein des bénédictions divines, il avait eu assez de jours, et là, il considérait que c'était le temps de son départ était arrivé. Alors, l'hébreu utilise deux mots pour parler de la mort d'Abraham, expira et mourut. Le premier verbe « expira » parle du dernier souffle qui s'envole et « mourut » nous rappelle la parole de l'Éternel, Genèse 15:15. « Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères et tu seras enterré en bonne vieillesse. » Enterré en bonne vieillesse, donc ça c'est le corps. Mais t'en aller en paix vers tes pères, à quoi il fait référence là? Il fait référence à la vie éternelle, la vie céleste, vers ses pères. Ses pères étaient où? Au ciel déjà avec le Seigneur. Quand tu dis, expira, t'en iras vers tes pères, ça veut dire ça. Alors, Abraham avait mené une vie bénie et il meurt comblé. Il a expérimenté d'innombrables bénédictions et il connaît le plein rassasiement spirituel, la satisfaction d'une vie riche d'expériences de foi et de proximité avec le Seigneur. L'expression « et il fut recueilli vers ses peuples » ne se réfère pas à ses restes corporels rassemblés dans un tombeau familial, parce que les versets suivants indiquent qu'il est advenu de sa dépouille. Sa dépouille est allée dans la terre, enterrée. C'est ça que ça dit, les mots enterrés et dresse là. Mais par ces mots-là, recueilli vers ses pères, l'auteur fait comprendre qu'Abraham continue d'exister en tant que personne avec le reste de ses ancêtres croyants, car il y a une vie après la mort. Pour Jésus, il ne fait aucun doute qu'Abraham vit et attend le jour de la résurrection corporelle. Luc 20, versets 37 et 38. Et que les morts ressuscitent, c'est ce que montre aussi Moïse, quand il nomme au buisson ardent le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent devant lui. Il est en train de faire une référence au fait que son âme est allée avec ses pères dans le ciel. Alors, on parle de deux choses, la mort physique, son corps taillé dans la terre, son âme est allée dans la félicité, dans le bonheur éternel. Et la troisième idée, comblé d'honneur terrestre et céleste, du moins symboliquement, versets 9 et 10, et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hétien, qui est en face de Mamré. Le champ qu'Abraham avait acheté des enfants de Heth, c'est là que fut enterré Abraham avec Sarah, sa femme. Il y a des choses intéressantes à lire ici. Si vous vous souvenez, Ismaël et Isaac, ce n'étaient pas les deux meilleurs chums au monde. Ils étaient chicanés très, très, très intensément. Là. Et la mère avait dit, lui, là, tu me mets ça dehors, ben, là, ça ira pas bien en famille. Là. Alors, on voit ici une bénédiction que l'Éternel accorde à Abraham, que ses deux fils qui ne s'accordaient pas du tout pour son décès ont respecté le père. Où ce qui était rendu, Ismaël, ça ne le dit pas, mais il était probablement assez loin. Quand il a su que son père était décédé, il a oublié les querelles qu'il avait eues avec Isaac et était capable de venir assister aux funérailles de son père. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Alors on voit les honneurs terrestres. Le Seigneur accorde même une bénédiction dans le sens à Abraham, dans le sens que ses deux fils qui étaient ennemis deviennent qui se respectent lors du jour des funérailles. C'est bien ça. Parce que combien de fois on voit des fois des décès où des chicanes de famille ne se réconcilient pas. J'ai connu ça moi, dans des familles que de proches. Là, et je trouve ça plus pénible que ça. Moi, je trouve, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est plus pénible que des enfants qui ne sont même pas capables de s'accorder lors d'un décès. Tu sais, je veux dire, regarde, parce que c'est triste, c'est très triste. Mais ici, on voit que Isaac et Ismaël, au moins, ont eu la décence que lors du décès de leur père. Ça, c'est une bénédiction de Dieu aussi. Si tu vois, on lit le texte rapidement, on ne la voit pas. Ou du moins, on n'en prend pas conscience, mais pourtant, c'est bien là, là. Alors, on est ici témoin qu'Ismaël, qui avait été chassé de la maison paternelle, ne demeurait fort probablement pas très loin, et qu'il aimait son père pour toutes les bénédictions qu'il avait reçues de lui. Et il passe par-dessus les animosités qui auraient pu l'animer pour honorer son père lors de son enterrement. La caverne de Macpéla, c'est sûrement un symbole de la foi en la résurrection et en la possession de la terre promise. Donc, on parle d'honneur terrestre. Il reçoit une bénédiction d'honneur terrestre. Ses deux fils sont capables de venir à son enterrement sans faire de chiard, comme on dit. Et il y a aussi la caverne de Macpéla qui est vraiment symbolique de ta foi et de ta certitude que tu vas ressusciter un jour. Alors, je crois que j'ai une citation que j'ai trouvée sur Internet qui peut nous aider à comprendre le symbolisme de la caverne de Macpéla. Je vous le lis, j'ai pris ça sur un site web qui s'appelle www.regard.eu.org. Alors, il explique un peu le phénomène de la caverne de Macpéla. Souvent, on lit le texte, puis on ne va pas fouiller mes mains là-dessus. Et quand on fouille, on découvre des affaires extraordinaires. Alors, ça dit, « Mais pourquoi Abraham attache-t-il de l'importance à la possession d'un tombeau? Tient-il avant tout à reposer près de sa compagne? Un tel désir se comprend chez ceux qui ont longtemps vécu ensemble. Mais nous ne croyons pas que ce soit là le principal mobile d'Abraham. Si l'on croit à une vie future, à la résurrection, l'association des sépultures n'a pas d'importance. Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de réunir ceux dont les restes sont séparés? Qu'est-ce qui inspira donc Abraham? Je crois que c'est sa foi. Ce n'est pas sans raison qu'il est appelé le père des croyants. Or, Dieu avait promis à Abraham de lui donner la terre sur laquelle il se trouvait. En y acquérant un tombeau, il avait promis une terre, puis tout ce qu'il avait réussi pour cette terre-là à avoir, c'était un tombeau. En acquérant un tombeau, le patriarche a certainement voulu offrir un témoignage éclatant de sa confiance en l'oracle divin, même si lui ne le voyait pas de ses yeux, autrement dit, il y en a d'autres qui vont le voir après moi. Ce tombeau sera un monument, non de la puissance de la mort, mais de la puissance de la foi. Par cette acquisition, Abraham prend en effet, en quelque sorte, possession pour lui et ses descendants de la terre qui sera la propriété de sa race. L'achat de la caverne de Macpéla a la même signification que l'érection des autels dont nous avons parlé. Abraham a entrevu les merveilles dont cette terre, devenue sainte à ses yeux par la promesse divine, sera le théâtre. Il y naîtra des rois et des prophètes remplis de l'Esprit de Dieu. Les anges y descendront. Le Fils de Dieu y habitera. Il mêlera en Gethsémanie sur la croix des gouttes de son sang à la poudre de cette terre. Autrement dit, il n'avait pas la terre promise, mais il est en train de voir par anticipation, spirituellement, tout ce que cette terre-là deviendrait. La terre d'Israël, avec tout ce qui était pour arriver dessus. Et même, il voit même jusqu'à Jésus, le sang, il voit que la terre va tomber sur la poussière de cette terre-là. De cette terre, il montera au ciel comme le vainqueur de la mort et du péché. Et Abraham pressent toutes ces grandes choses. On ne le voit pas nécessairement dans le texte. Il faut les gens qui nous aident à réfléchir et à voir des choses qui sont dans le texte, mais qu'ils sont là un petit peu comme par déduction. De là encore l'attachement qu'il a pour ce pays de Canaan. Et on voit dans le verset 11 que ce n'est pas à cause qu'Abraham disparaît que la promesse s'éteint. Il y a Abraham, après ça, ça va, la deuxième maillon, c'est Isaac, après ça, il va y avoir un autre maillon qui va être Jacob, etc., jusqu'à la venue de Jésus. Dans Genèse 25, 11, « Or, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils et Isaac habita près du bruit du vivant qui me voit. » Ça aussi, c'est très significatif. Mais, autrement dit, il est en train de dire qu'après la mort d'Abraham, il ne dit pas qu'il a béni les fils de Keturah. Il dit « Dieu bénit Isaac, son fils. » Pourquoi? En vue de l'accomplissement futur de l'arrivée du Messie. Les derniers mots de ce verset sont une bénédiction. Dieu bénit Isaac, son fils. Sa famille aurait pu se dire, c'est la fin d'une époque, Abraham était le dépositaire de toutes les bénédictions, de toutes les promesses de Dieu, et il aurait pu dire, et elles ont disparu avec lui. Le Seigneur veut montrer que, oui, il y a un maillon qui s'en va au ciel, mais un autre maillon qui continue la lignée jusqu'à l'arrivée du Messie. Alors, la bénédiction accompagne la lignée choisie. Pas pour rien que ça dit « Dieu bénit son fils Isaac ». Et Isaac quitte Mamré pour s'établir à Lakaï-Roï. Lakaï-Roï ou Lachaï-Roï, comment on prononce ça? Je pense que c'est Lakaï-Roï. Là où il a rencontré Rebecca. Intéressant aussi ça. Tandis qu'Ismaël part en direction de l'Est, Isaac demeure à l'endroit de la bénédiction. Près du puits du vivant qui me voit. Bien sûr, ça fait référence à Christ, c'est gros comme ça. Alors, ce puits symbolise la grâce. Agar y avait rencontré Dieu. Vous vous souvenez quand Agar, c'est là que c'était près du puits du vivant qui me voit. Et le Seigneur lui avait alors ouvert les yeux. Ce puits symbole aussi l'amour, car ce fut le lieu privilégié des rencontres amoureuses. Isaac en Genèse 24, Jacob en Genèse 29. Ce puits-là, la notion de puits, à la fois dans les Saintes Écritures anciennes et à la fois dans le Nouveau Testament, c'est très important. C'est toujours symbolique. Alors, ce puits symbolise, bien entendu, la vie, qui est essentielle à la vie. Au terme du premier conflit hydraulique de la Bible, autrement dit, les gens qui chicanent pour de l'eau, Abraham et Abimélec avaient conclu à Beersheba aussi un pacte de non-agression. Si on allait chercher tout ce que les Écritures disent sur les puits, qu'on ferait une étude là-dessus, on verrait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les puits dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. La Samaritaine, ça s'est passé où? Près d'un puits. Elle appuisait de l'eau physique, lui, il parlait de l'eau spirituelle, de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est très important dans les Écritures. Quand on parle d'un puits, c'est toujours pour faire une référence de près ou de loin au Christ. C'est tout le temps. Si on pense au Christ, quand on voit un puits des Écritures, on est dedans. Alors, trois applications, rapidement. Rendons grâce à Dieu, parce qu'il est gracieux, miséricordieux, et prend soin de nous jusque dans nos vieux jours. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Puis à 140 ans, le Seigneur a encouru de la miséricorde envers lui en lui donnant une deuxième épouse, en lui donnant une grande vitalité pour qu'il puisse avoir avec Keturah 6 autres enfants. Alors le Seigneur est toujours plein de tendresse envers les siens, peu importe l'âge qu'on a. Deuxième application, adorons le Seigneur pour sa fidélité à l'accomplissement de ses promesses et plus particulièrement la promesse de l'envoi du Messie. Il l'a promis dans Genèse 3:15 et si on regarde tout le développement de ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est sûr que ça va arriver au Messie un jour. Quand on lit toute la Bible au complet, on se rend compte qu'il a accompli sa promesse, mais on voit déjà des jalons. Le premier jalon, c'est que même si Abraham est mort, Isaac, lui, va continuer. Puis ça va continuer. Et la troisième application, comme Abraham, notre espérance du ciel promis est l'objet aussi de notre assurance. Nous aussi, on sait qu'après la mort, notre corps va dans la terre, mais nous, on continue le côté spirituel, notre âme va avec le Seigneur. Alors que notre grand Dieu soit béni et adoré. Amen.